Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Laurent Chauveau. Bonjour Laurent Chauveau.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Laurent Chauveau, vous êtes directeur de recherche au CNRS.
Oui.
Votre laboratoire est à l'extrémité de la rade de Brest.
Oui, je suis juste en banlieue de Brest, à l'ouest de Brest, à Plouzané.
Alors, pour vous présenter, que dire encore? Que vous aimez poser les yeux là où on ne voit rien?
Oui. J'aime bien, c'est une de mes motivations pour la recherche scientifique. Et la recherche scientifique permet de regarder là où les yeux ne voient rien.
Et alors, vous vous occupez à regarder quoi depuis 30 ans?
Ce qui m'intéresse réellement le plus, c'est le fonctionnement des écosystèmes côtiers. J'aime bien étudier et essayer de regarder et imaginer comment fonctionne la mer, comment fonctionnent les écosystèmes côtiers. Et c'est pour ça que je m'attache à un outil qui s'appelle la coquille Saint-Jacques. J'ai transformé la coquille Saint-Jacques en un outil qui permet de regarder comment fonctionne la mer.
Voilà, pendant 30 ans, vous avez observé les coquilles Saint-Jacques.
Oui.
Vous avez pêché des larves de coquilles Saint-Jacques?
Des larves, des post-larves et ses œufs et des juvéniles, pratiquement tous les stades de vie de cet animal et pratiquement dans tous les types d'écosystèmes de la planète.
Alors Laurent Chauveau, vous avez choisi comme journée particulière le 20 août 1995. Ce jour-là, vous faisiez une découverte à laquelle vous ne vous attendiez pas.
J'ai connu le Finistère. Puis également plus tard, j'ai voyagé. On n'a pas fait le tour du monde, mais j'ai été dans différents pays. C'est le Finistère que je trouve le plus beau pays. Expliquer pourquoi c'est très long, mais Brest, c'est une ville toute particulière, Brest. Pas seulement parce qu'on allait prendre le bateau pour aller à Ouessant, mais Brest, c'était Brest.
Laurent Chauveau, vous avez reconnu cette voix?
Oui.
C'est qui?
C'est Jacques Prévert.
En 1964, Brest, c'est Brest. Le Finistère, c'est le plus beau pays. Vous êtes d'accord avec Jacques Prévert?
Comme lui, je venais de l'extérieur. Je me suis installé à Brest d'abord, puis dans le Finistère pour le restant de mes jours. Et c'était au cours à la fin des années 80, pour les mêmes raisons que Jacques Prévert. Cette ville est magnifique, ses habitants sont magnifiques. Et le Finistère et la mer dans le Finistère est un endroit extraordinaire.
Vous êtes un amoureux, quoi.
Oui,
un amoureux du Finistère.
Du Finistère et des Finistériens. J'adore vraiment cette population.
Les gens du bout du monde?
Oui, les gens du bout du monde. Une relation au travail, une relation à la mer et à la culture en général. Vraiment des gens extrêmement intéressants.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement cet été 1995, Laurent Chauveau? Qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'avais à ma charge, dans le cadre de ma thèse de doctorat, donc j'étais en train de travailler depuis déjà un an et demi, sur la coquille Saint-Jacques, et on me posait la question, est-ce que cet animal va bien ou mal dans cet écosystème rade de Brest, où elle était représentée, où elle représentait un emblème, ouais, c'était l'emblème de cet écosystème. J'avais à ma charge l'étude de la croissance des coquilles Saint-Jacques. On avait eu une année on appelle ça la reproduction ou le recrutement pléthorique l'année d'avant, et on avait à disposition pour des biologistes une énorme quantité de coquilles Saint-Jacques, et elles ont brutalement arrêté de grandir pendant le mois de juillet 1995.
Il s'est passé quelque chose de particulier.
Il se passait quelque chose de particulier. On a très vite compris que c'était lié à des algues toxiques, et la toxicité de ces algues avait imposé à ces coquilles Saint-Jacques d'arrêter de grandir. Une coquille Saint-Jacques, c'est comme un arbre. Chaque hiver, ça dépose une marque, une cerne, et est apparue en cours de l'été une cerne d'hiver. Et c'est cette bande blanche qui avait rien à faire là, qui m'a intrigué et j'ai commencé à regarder comment ces coquilles Saint-Jacques fabriquaient une bande blanche en plein milieu de l'été.
Mais une bande blanche sur la coquille ?
Sur la coquille, à l'extérieur. D'accord. Elle était visible même en plongée, même sous l'eau, on voyait un trait blanc apparaître là où il devrait, où on aurait dû observer une couleur fauve. Ouais. Donc cette bande, cet anneau blanc était très curieux et c'est ça qui m'a fait mettre des coquilles Saint-Jacques sous une loupe binoculaire, sous un microscope et j'ai commencé à compter, à observer des microstries, des micro-sillons. Et pour m'apercevoir très très vite, vers le 20 août, que les coquilles Saint-Jacques que j'avais sous les yeux déposaient une strie tous les jours.
C'est-à-dire que tous les jours, la coquille Saint-Jacques marque sa croissance.
Exactement, et ça voulait dire, dit autrement, c'est que finalement, ce jour-là, cette coquille Saint-Jacques est devenue un calendrier. Et on était capable, jour après jour, de calculer sa croissance. Et à l'inverse, on était capable de remonter dans le temps, pendant toute sa vie, et a posteriori, de calculer cette croissance journalière en utilisant ces marques que l'on voit de façon très nette à la surface des valves.
Donc ce 20 août 1995, vous comprenez que la coquille Saint-Jacques peut vous servir d'archive, en fait.
Exactement. Et alors, soyons pas prétentieux, d'abord, on s'intéressait vraiment à sa croissance. Et ça vous paraît rien, mais la croissance d'un animal chaque jour, c'est une donnée extrêmement étonnante pour un biologiste marin, parce que accéder à la réponse d'un animal aux variations de son environnement à l'échelle du jour, ça fait de la coquille Saint-Jacques un animal très très particulier. On accédait à des informations qu'on était les premiers pouvoir décrire.
C'est la découverte d'une vie.
Clairement, la découverte, c'est à partir de ce jour-là et de cette découverte, se sont enchaînées des idées nouvelles qui n'étaient pas du tout imaginables ou pas du tout prévisibles et se sont enchaînées des voyages en Norvège ou aux États-Unis ou ensuite sous les tropiques, en Arctique et en Antarctique. L'ensemble de ma carrière, finalement, utilise le fait que ce jour-là, on a découvert que la coquille Saint-Jacques était un calendrier.
Un calendrier. En 1995, dans votre laboratoire, ce 20 août, certainement vous écoutiez Youssou N'Dour,
oui,
qui caracolait encore en tête oui, du hit parade.
Alors, on l'écoutait à la radio, mais surtout sur les bateaux.
Ah oui,
ouais, parce que sur les bateaux côtiers, il y a la radio. On écoute France Inter à bord d'un bateau. Vous voyez, et en fait, en les genoux sur le pont d'un bateau à trier les coquilles Saint-Jacques, essayez d'imaginer dans l'odeur d'iode. Et vous entendez à la radio Youssou N'Dour. Ouais.
Not a second, we're 7 seconds away.
Laurent Chauveau, vous avez d'autres souvenirs de vous sur les bateaux en train d'écouter cette musique, Youssoundour?
Il faut essayer d'imaginer pendant l'été, donc il fait parfois beau hein, en Bretagne en été, et essayer d'imaginer la rade de Brest sous le soleil. Et ce bateau, il s'appelait la Sainte-Anne du Porzic. C'était un petit bateau de pêche qui porte le nom d'une anse de la rade de Brest. Et la Sainte-Anne du Porzic en mer avait un comportement assez curieux, peu importe. Mais bon, il tenait assez mal la mer. Et finalement, faut essayer d'imaginer une drague qui part à l'eau et dans une odeur d'acier rouillé. Et quand cet engin traînant remonte à bord, là, vous avez une odeur forte d'iode. Cette musique est associée pour moi à cette odeur et à ces coquilles Saint-Jacques qui remuent et qui essayent de se débattre sur le pont d'un bateau en acier. Vous voyez, c'est le beau temps, un bateau qui bouge, une drague qui remonte avec une odeur différente à l'aller et au retour.
Aujourd'hui, nous allons nous-mêmes faire étape et nous reposer dans un sujet d'apparence modeste mais non point futile, les coquilles Saint-Jacques.
Voilà, c'est pour reprendre, Laurent Chauveau, le cours de notre discussion. Ça nous plaisait beaucoup, je crois que ça vous fait sourire aussi. Oui. Donc c'était le 20 août 1995. Vous découvrez donc que la coquille Saint-Jacques marque le temps en fabriquant une petite marque chaque jour. Mmh. Et cette découverte, vous l'avez faite par hasard.
Oui. Hein,
vous ne vous y attendiez pas, alors que ça faisait déjà des années que vous travailliez, vous observiez les coquilles. Ce qui vous fait dire, Laurent Chauveau, que vous cultivez la sérendipité.
Oui.
C'est-à-dire trouver ce qu'on ne cherche pas.
Exactement, et en fait, évidemment, tous les chercheurs vous diront que il est quand même très très probable de répondre à côté de la question qu'on a posée initialement, et c'est pas très grave, c'est plutôt une richesse. Et dans le cadre des études sur la coquille Saint-Jacques, je crois que je viens de passer 30 ans de ma vie à découvrir ou à régulièrement faire un pas de côté par rapport à l'objectif initial.
Parce que jamais vous ne pensiez que votre coquille Saint-Jacques deviendrait un instrument scientifique fiable, parce que c'est ça après.
Essayez d'imaginer qu'on est simplement dans la situation où on se pose la question, est-ce que le cycle vital d'un animal est encore possible dans un écosystème fortement anthropisé? On a des activités humaines, on a introduit une espèce exotique qui est en train de proliférer au fond. On imagine qu'il y a dans cet écosystème un peu trop de prédateurs, on imagine qu'il y a quelques contaminants, on a une liste d'hypothèses qui permettent d'expliquer pourquoi la coquille Saint-Jacques va mal. Donc on se pose des questions d'écologie, de fonctionnement, de cycle vital. Ouais. Est-ce qu'elle se reproduit normalement? Est-ce qu'elle grandit normalement? Bon. Est-ce qu'elle se fait manger par d'autres?
Ouais.
Est-ce qu'elle a encore de la place au fond? Est-ce qu'elle se trouve assez de nourriture? Ce sont des questions de base d'écologie. Ce sont ces questions-là que nous nous posions en 1995. La sérendipité est dans le fait que l'animal vient devient brutalement un outil et une archive qui permet de décrire du fonctionnement d'écosystème, certes, mais bien autre chose.
Ouais. Mais parce qu'en plus, c'est une réponse, cette trace sur sa coquille, c'est une réponse aux variations de l'environnement. Parce que cet été 95, il avait fait très chaud,
oui.
Il y avait trop de phytoplancton, c'est ça ?
Oui, d'abord trop de phytoplancton, puis du phytoplancton toxique, et on finit par découvrir que la coquille Saint-Jacques vous dit bien, est-ce que j'ai bien mangé, pas bien mangé, est-ce qu'il y avait de l'oxygène dans l'eau ou pas d'oxygène dans l'eau, et est-ce que la croissance témoigne de la toxicité de l'eau ? Et ça devient déjà là, une archive, et le témoignage de fonctionnement, dysfonctionnement d'un écosystème côtier.
Oui. D'où l'idée de l'instrument fiable.
Oui.
Mais je vous propose une autre définition.
Le mollusque. Le mollusque est un être presque une qualité. Il n'a pas besoin de charpente, mais seulement d'un rempart, quelque chose comme la couleur dans le tube. La nature renonce ici à la présentation du plasma en forme. Elle montre seulement qu'elle y tient en l'abritant soigneusement dans un écrin dont la face intérieure est la plus belle. Ce n'est donc pas un simple crachat, mais une réalité des plus précieuses. Le mollusque est doué d'une énergie puissante à se renfermer. Ce n'est à vrai dire qu'un muscle, un gond, un blunt et sa porte. Le blunt ayant sécrété la porte. Deux portes légèrement concaves constituent sa demeure entière. Première et dernière demeure. Il y loge jusqu'après sa mort. Rien à faire pour l'en tirer vivant.
Archivina de 1951.
Quelle merveille.
Francis Ponge.
Francis Ponge.
Le Mollusque,
oui.
Qui est un des poèmes du Parti pris des choses.
Oui.
C'est sa description à lui de la coquille Saint-Jacques. Vous vous y retrouvez?
Je m'y retrouve au moins très partiellement. La poésie, je me retrouve d'abord dans la poésie. Effectivement, une très large partie de cette définition est exacte. C'est la magie de Francis Ponge. C'est souvent exact avec des mots très étonnants pour un scientifique. Ouais. Mais j'adore. Ouais, j'adore. Ce livre, le livre en entier, est juste exceptionnel.
Le Parti pris des choses. Alors vous la décrivez comme ça. Robe fauve, blanc immaculé à l'intérieur, sa coquille plissée de lignes élégantes, ses deux valves asymétriques qui s'ajustent parfaitement, en font même un modèle mathématique.
Oui. Ça a l'air de vous surprendre. Je me suis longtemps intéressé. Enfin, ce qui m'intéresse là, c'est dans cette partie du livre, c'est finalement pourquoi il y a une continuité dans notre attirance vers cet animal. Dès le néolithique, des hommes reconnaissent une esthétique particulière ou une poésie et font de la coquille Saint-Jacques un symbole de supériorité. Les chefs des tribus se parent de ce pendentif. Ouais. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Notre œil est attiré de façon assez curieuse
par
la coquille Saint-Jacques et par cette esthétique. Alors, peut-être cette couleur fauve, peut-être l'opposition entre le fauve extérieur et le blanc nacré à l'intérieur. J'essaye de m'interroger sur est-ce que cette symétrie est importante? Est-ce que notre œil reconnaît dans la symétrie quelque chose de particulier? Mais enfin, bref, dans tous les cas, on finit par Botticelli, le lapin avec Vénus sortant de l'eau.
La naissance de Vénus.
Ouais, ça m'intéresse vraiment cette continuité dans notre cerveau depuis le néolithique
jusqu'à aujourd'hui.
Alors maintenant, on la mange, mais c'est assez récent. Avant, c'était vraiment d'abord un symbole.
On la mange depuis quand?
Depuis le début du XXe siècle.
Pas avant?
Non, c'est vraiment extrêmement récent.
Elle ne vous a jamais ennuyé, la coquille Saint-Jacques, après toutes ces années?
Depuis 2 ans, j'écoute le bruit qu'elle fait et on associe des musiciens brestois ou rennais avec ce travail-là. J'ai cette impression de rebattre les cartes assez régulièrement. Effectivement, c'est toujours le même modèle, mais j'ai une approche assez différente. Et puis, assez souvent, je le fais en plongée, parfois sous la glace, avec des icebergs et des manchots à côté de moi. Si je raconte à l'antenne de l'Inter que c'est ennuyeux, ce sera pas sérieux.
Les manchots vous regardent.
Bien sûr, les manchots vous regardent plonger et étudier les coquilles Saint-Jacques. Vous avez à 1 mètre de vous des animaux qui viennent vous voir à 20 mètres de profondeur et qui regardent ce que vous êtes bien en train de faire avec des pétoncles et des coquilles Saint-Jacques sous la banquise.
Ah, c'est génial. Donc ça veut dire que vous avez les manchots qui nagent à côté de vous pendant que vous plongez sous la banquise pour regarder les coquilles Saint-Jacques.
Oui, Zoé.
Mais vous êtes un bienheureux, Laurent.
Ben voilà, donc la question est saugrenue. Est-ce que vous vous ennuyez à étudier les coquilles Saint-Jacques? Non.
Bah, au bout de 30 ans, on peut quand même se poser la question. Alors attendez, Laurent Chauveau, vous avez découvert que donc la coquille Saint-Jacques est un calendrier, un thermomètre, qu'elle nous renseignait sur la direction et la force du vent, sur la température de l'eau. Donc un calendrier, une archive, on l'a dit, et qu'elle pouvait être utilisée pour remonter le temps. Et enfin que la coquille Saint-Jacques était un révélateur de pollution. Tout ça, vous avez découvert, Laurent Chauveau.
Oui.
Mais par contre, vous n'avez jamais découvert pourquoi elle fait une strie par jour. Ça, vous n'avez pas compris, Laurent Chauveau.
Non. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai vraiment fait.
C'est-à-dire que depuis 95, vous cherchez comme un fou.
Oui, je l'ai filmé, j'ai essayé plein de choses parce que ça suppose cette strie que l'animal arrête de bouger pendant un petit moment. Je passe les raisons propres à la biologie de cet animal, mais mon hypothèse c'est qu'elle doit absolument épanouir son manteau et le tissu qui fabrique cette coquille et arrêter de bouger pendant une petite demi-heure, c'est mon estimation. Donc j'ai commencé par essayer de la filmer. Mais alors, c'était un échec cuisant. Bon, bref. Et on a essayé. Oui, parce que filmer en Bretagne, c'est rarement une bonne idée. Et ensuite, si l'événement a lieu pendant la nuit, alors il faut éclairer. Si vous éclairez un animal la nuit, évidemment, vous changez son comportement. Donc, il y a des dilemmes d'écologistes comme ça qui sont insolubles. Mais on a fini par avoir l'idée de, grâce aux gens qui travaillent sur les manchots. Les gens qui travaillent sur les manchots se posaient la question, un manchot qui descend à 100 mètres de profondeur, combien de fois il ouvre le bec quand il mange du krill? Bon, c'est une question de biologiste, il y a deux personnes qui s'intéressent à ça, mais pour le faire, on met un petit capteur sur le bec et on regarde combien de fois il a ouvert son... Bon, j'ai récupéré ces idées-là et on a fini par instrumenter les coquilles Saint-Jacques et étudier leur mouvement avec le petit capteur qui est dans votre téléphone, celui qui, ça s'appelle un accéléromètre, c'est celui qui permet, quand vous changez la position de votre téléphone, d'avoir un affichage soit portrait, soit en mode paysage.
D'accord. Ouais.
Là-dedans, il y a un capteur qui vous dit où est la Terre par rapport au téléphone.
Ouais.
Si vous mettez ça sur une coquille Saint-Jacques avec une mémoire et avec une petite batterie, et vous la laissez porter ce petit capteur pendant 5 semaines ou plusieurs mois, vous obtenez les mouvements à une précision micrométrique qui est une centaine de fois par seconde. Et on a, vous voyez, j'ai fait des efforts pour comprendre si elle arrêtait de bouger ou pas avec ce genre de capteur. Et c'est ça aussi qui m'invite à l'écouter, puisque ces capteurs nous ont donné pas mal d'informations sur ses mouvements. Mais c'était quand même extrêmement intrusif. Il faut lui coller ce capteur sur le dos. Et la raison pour laquelle on mettait un hydrophone et un micro à côté d'elle, c'est bien d'essayer d'entendre les moments où elle est dans le silence complet. Vous voyez ?
Et au donc, moment où elle fait sa strie, c'est ça ?
C'est ça. Et donc finalement, la raison pour laquelle on associe musique et recherche en écologie, c'est encore cette strie qui est à l'origine de ce mariage.
Par contre, vous avez donc si vous n'avez pas compris pourquoi elle faisait des stries, cette coquille Saint-Jacques, vous avez observé qu'elle s'enfuyait et qu'elle avait peur des étoiles de mer.
Allez, allez, crotte. On tire l'autre ?
Ouais, ouais, vas-y, l'autre.
Vas-y, derrière.
Alors la pêche, elle était bonne ?
Oh oui, oui, ça peut aller. Mais c'est les étoiles qui a pêché beaucoup, quoi, c'est ça. Pour nous, c'est un vrai fléau. Tous les mollusques, ça les mange. Les coquilles Saint-Jacques, les pétanques, les moules, les huîtres, tout ce qui est mollusque, ça détruit tout.
C'est ça, pratiquement, vos champs de pétanque actuellement sont envahis par étoiles de mer.
Depuis 2 ans, sur tous les gisements de côtes sarantaises, on peut déjà évaluer au moins 150 tonnes de manger par les étoiles de mer.
C'est énorme.
Oh, c'est énorme.
C'est-à-dire que les étoiles de mer mangent pratiquement autant que vous, vous en ramassez.
Que nous, on empêche, oui. Exactement.
Et alors, comment les étoiles de mer peuvent-elles manger les coquillages ?
Elles se mettent dessus. Elles
sont. Vous pouvez nous montrer, peut-être ?
Oui.
Voici parce que là, ce n'est pas les étoiles de mer qui mangent.
Une coquille Saint-Jacques, voici une étoile de mer. L'étoile de mer s'arc-boute dessus et a fait pression jusqu'à ce que le coquillage cède. Et dès que le coquillage et la coquille est entrouverte, l'étoile de mer met ses petits tentacules dedans et fait succion jusqu'à la fin. Vous voyez là, voilà des pétons qui ont été détruits là. Vous voyez, voilà, tout ça c'est des moules qui ont été détruites aussi. Voilà.
Il ne reste plus que des coquilles vides.
Il ne reste que des coquilles. Quand un troupeau d'étoiles de mer est dans un coin, en 15 jours c'est net, il ne reste plus que les roches.
C'était la pêche en 1967, Laurent Chauveau. Et vous avez déjà vu une coquille Saint-Jacques courir, s'échapper, s'enfuir quand elle voit une étoile de mer ?
Oui, oui, une coquille Saint-Jacques, c'est même un des éléments de démonstration à faire à des enfants et dans la relation proie-prédateur simple en milieu marin. Il y a cette relation coquille Saint-Jacques, étoile de mer. La coquille Saint-Jacques est capable de sentir, on parle d'odeur, la présence de l'étoile de mer et d'anticiper la mort en essayant de fuir parce qu'elle a la capacité de nager. Et donc une coquille Saint-Jacques
peut... Elle nage ou elle saute ?
Elle nage. Elle nage la façon d'une pieuvre, c'est-à-dire qu'elle avale de l'eau et elle propulse cette eau vers l'arrière. Ouais. C'est plutôt une réaction que une propulsion.
Et ça, vous l'avez vu, vous ? Vous l'avez observé, Laurent Chauveau ?
C'est extrêmement facile à observer. Bon, il s'agit de mettre une bouteille sur le dos, un détendeur dans la bouche et vous allez en Bretagne, à part 10 mètres de fond, les coquilles Saint-Jacques, si vous approchez une étoile de mer, alors elle se met à nager immédiatement.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclaboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps, même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les yeux vivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les yeux vivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré.
Jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière du chercheur en écologie marine Laurent Chauveau. Évidemment, Miossec, Brest, vous le connaissez Miossec?
Oui, la rencontre avec Christophe Miossec a été un événement pour moi parce que j'étais arrivé au bout d'un processus où je me disais finalement nous avons fait un mariage art et science et j'avais besoin d'exprimer dans ce mariage art et science la beauté de la nature et de la confier aux artistes plutôt qu'aux scientifiques. Et avec Miossec, ce qui me chagrinait vraiment, c'était que les Brestois n'avaient pas réellement conscience des activités scientifiques ou de la recherche fondamentale faite dans leur port ou dans leur université ou à l'Institut universitaire européen de la mer. Et cette idée d'une fragilité ou une espèce d'urgence à expliquer au public l'urgence climatique et de l'urgence écologique, notamment en revenant des pôles, parce qu'à l'époque j'allais en Arctique et en Antarctique, j'avais besoin de lui parler de ça en lui posant la question, est-ce que tu peux te transformer en un passeur d'idées ou utiliser plutôt des émotions ou de la sensibilité pour expliquer ou exprimer des idées de recherche fondamentale en écologie.
Et c'est ce qu'il a fait dans cette chanson, la chanson qu'on vient d'écouter. C'est une chanson qu'il a écrite après vous avoir rencontré
Laurent
Chauveau.
C'est ça, c'est assez bluffant, l'intelligence de cet homme.
Nous sommes très nombreux, depuis 1947, près de 200, à avoir été dans l'Arctique ou dans l'Antarctique en France. Dans l'Antarctique en particulier, puisque je dois vous parler du pôle Sud. Dans l'Antarctique en particulier, puisque vous le savez, nous y avons une terre, la Terre Adélie. Eh bien, l'Antarctique, c'est un des continents les plus grands du monde. Ce continent est 25 fois grand comme la France. 25 fois grand comme la France, et couvert presque entièrement d'un désert de glace, presque entièrement, je dis, à l'exception de quelques chaînes de montagnes. Un désert de glace qui est tellement épais, dont le volume est tellement énorme, que s'il fallait le distribuer pour ne plus en laisser, à chacun des 2,5 milliards d'habitants du monde, il faudrait donner une tonne de glace chaque seconde pendant un an.
Ça, c'était une archive de 1958, Paul-Émile Victor.
Oui.
La glace, c'est plus une tonne de glace par habitant.
Non, et évidemment, on s'attend à une catastrophe majeure. Cette glace va disparaître, elle est en train de disparaître. On a commencé par l'Arctique et gentiment, l'Antarctique est en train de fondre.
Alors vous, Laurent Chauveau, vous y êtes allé en Antarctique?
Oui, en Terre Adélie.
En Terre Adélie.
Grâce pas à Émile Victor, mais à l'Institut Paul-Émile Victor. C'est l'Institut qui porte son nom.
Ah, c'est vrai. Mmh. Racontez-moi, parce que vous dites que c'est une beauté dont on ne revient pas, en fait.
Eh bien, on revient à l'Antarctique avec un vrai blues, avec un vrai mal-être. Et c'est un panachage entre un vrai paradoxe, puisque vous êtes au bout de 2 mois, 3 mois ou 4 mois très heureux de revenir en Bretagne. Et en même temps, vous revenez avec une vie un peu fade. l'Antarctique est un lieu avec une poésie absolue. Et
décrivez-moi.
Alors, sur la Terre Adélie, hein, à la fois ce mélange entre une faune sauvage et des icebergs gigantesques et la présence de ce continent à côté qui est un monstre de glace, hein, avec des températures un peu extrêmes et des lumières à 2h du matin, il fait jour et cette glace devient rose, elle quitte le bleu pour venir... Bref,
vous avez des couleurs
absolument magiques et des sentiments, des bruits de vent et des bruits de glace. Et,
bah,
bref, il y a un ensemble de bruits, d'odeurs, de couleurs et de courbes, enfin d'esthétique, vous voyez, qui rend le lieu complètement magique.
C'est le paradis.
C'est le paradis. Et alors, moi, j'ai eu cette chance avec mon ami Erwan Amis, là, le Bellilois, d'aller plonger là-dessous. Et la plongée associée, enfin, faire un trou dans la glace et puis descendre sous cette glace. Voilà quelque chose qui est dans le domaine de l'extrême en termes d'émotion. Et revenir de ces plongées antarctiques, pour un biologiste, c'était revenir de la planète Mars, hein. C'est revenir sur Terre et revenir au quotidien. Et
pourquoi c'est comment sous la banquise? D'abord c'est noir.
D'abord c'est noir. Puis c'est extrêmement sonore. Et l'eau est en Antarctique est à moins 1,8 degré, pratiquement moins 2 degrés. Donc vous avez d'abord une sensation de froid sur votre peau qui est absolument dingue. Puis, quand vous êtes biologiste, vous découvrez des formes animales que vous avez vues que dans les livres. Il existe
dans les abysses, là.
Vous descendez à 20 mètres, 30 mètres de profondeur, et là, existent des animaux que, je répète, quand vous êtes plus que bizarroïdes, vraiment très très étonnant. Ouais. Des pycnogonides, enfin bon, des formes animales qui sont absolument magiques.
Ouais. J'ai vu des photos.
Ouais.
Et vous étiez avec eux.
Voilà, et on a échantillonné tout ce petit monde-là, on instrumente, on avait nos pétoncles qu'il nous a fallu d'abord chercher. Et enfin bref, on s'est fait...
Parce que vous étiez là encore à la recherche de pétoncles.
De pétoncles, pour essayer...
Quand vous étiez sur Terre
Adélie, toujours. Oui, pour définir, vous essayez d'utiliser les compétences qu'on avait mis au point en Bretagne sur des coquilles Saint-Jacques bretonnes, et c'est un transfert de compétences vers un pétoncle polaire.
Et c'est parce que vous avez découvert cette beauté et cette fragilité que vous avez eu envie de la faire partager, de la faire connaître, et que vous avez eu l'idée de placer partout où vous pouviez des hydrophones, des micros dans l'eau. Alors, c'est ça l'idée, c'est de nous faire partager la beauté et la fragilité.
Ah ça c'est vrai, c'est le produit final. Ça fait permet de partager vraiment avec un large public la beauté des sons et la beauté de l'Antarctique. Mais l'idée au départ était bien d'obtenir des données sur des paysages sonores qui renseignent sur la biodiversité.
Alors paysages sonores.
On entend un chorus, on entend plein de choses, parce que quand vous êtes sous l'eau, le commandant Cousteau avait tout faux, c'est pas le monde du silence, on entend se superposer des bruits qu'on appelle de la géophonie, c'est-à-dire...
Ça chante.
D'abord, l'eau peut faire du bruit, la glace peut faire du bruit, l'eau qui tombe dans l'eau fait du bruit, vous voyez, ou les vagues font du bruit. Ensuite, un tremblement de terre fait du bruit également. Donc vous
Mais là, c'est pas ça qu'on entend. On entend des êtres
vivants. On entend un plus dessus. Ça vient se greffer de la biophonie, c'est-à-dire les animaux font du bruit. Alors, ça peut être des mammifères marins. Tout le monde a entendu les baleines, les phoques. On entend là des animaux assez impressionnants en termes de taille. Ça peut être des phoques de Weddell ou des phoques crabiers ou les léopards de mer ou des baleines en Antarctique. Donc, quand vous êtes sous l'eau, vous entendez sous ce petit monde-là. Parfois, ils sont très très loin et vous les entendez très très bien parce que ces sons-là se propagent très très bien sous l'eau. Et puis, à côté, vous avez des bruits d'invertébrés, des claquements qui peuvent venir d'oursins, de crevettes, vous voyez, d'invertébrés beaucoup plus menus et pourtant très sonores.
Alors, évidemment, Laurent Chauveau, vous avez placé des hydrophones sur les coquilles Saint-Jacques.
Oui.
Pour les écouter,
oui.
Après les avoir étudiés
oui.
Leurs mouvements, vous
oui.
Avez voulu les entendre. dirait un cœur.
On dirait un cœur, on dirait... Oui, ben, c'est pas loin d'être ça. Hein. C'est effectivement un muscle, celui que vous mangez à Noël, qui se contracte brutalement et qui oblige l'eau à sortir d'une coquille Saint-Jacques.
C'est ça qu'on entend.
Donc c'est un souffle d'eau sortant de l'animal, comme on entendrait un souffle d'air sortir d'une baleine, un évent de baleine, ou du sang sortant d'un myocarde. Ouais.
Et c'est vrai que le son change, le son de la coquille Saint-Jacques peut changer dès qu'il y a une perturbation. Vous l'entendez, vous pouvez reconnaître une coquille Saint-Jacques tranquille,
oui,
ou une coquille Saint-Jacques qui a peur.
C'est ça. Et en fait, ce travail-là a été fait avec une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSTA à Brest, des acousticiens, des gens qui sont spécialisés sur le son. Et on a assez vite découvert que, plutôt qu'utiliser des accéléromètres, des capteurs de mouvement, étudier le son permettait de décrire les mouvements d'une coquille Saint-Jacques. Est-ce qu'elle est en train de nager? Est-ce qu'elle est en train de essayer d'évacuer une toxine qu'elle a sur ses branchies ou à l'intérieur de son estomac?
Bon. Ou est-ce qu'elle est en train de s'enfuir parce qu'il y a une étoile de mer qui s'approche?
Ça marche. On réussit à caractériser ces sons-là.
Tout ça, vous l'avez enregistré?
Oui.
Et vous voulez nous le faire entendre?
Oui. On peut... présenter ces sons-là comme, voilà, il existe sur notre planète des sons étonnants et des paysages sonores complètement fous. Et l'autre élément qui est important, c'est que finalement, la recherche fondamentale vous invite là à écouter un animal et de se servir de ce son comme un système d'alerte, où les mouvements peuvent être utilisés comme un système d'alerte. Et on finit par utiliser les coquilles Saint-Jacques, c'est vrai, avec le câblier français RTE, comme des animaux qui peuvent renseigner sur ce qu'on fait subir à un écosystème côtier.
Agréable à écouter.
Non, c'est assez métallique.
C'est assez métallique, ouais. C'est des pinces.
Oui.
C'est quoi?
Oui, c'est des mandibules. En fait, une fois que vous vous dites, je peux écouter une coquille Saint-Jacques, vous vous dites, je peux le faire dans son écosystème. Si on peut le faire dans son écosystème, à côté des coquilles Saint-Jacques, il y a des grands crustacés en Bretagne, il y a des langoustes, il y a des homards. Et là, ce que vous venez d'entendre, c'est une araignée. Et en fait, on a tout de suite découvert que les grands crustacés étaient des candidats formidables pour faire de l'écologie acoustique. Et là, ce que vous avez entendu, c'est une araignée qui est en train de manger. Et alors qu'on entend très très bien et à grande distance ce genre d'animaux en train de s'alimenter. Une nouvelle fois, alors ça ressemble à une anecdote radiophonique, mais c'est un outil précieux, un nouveau descripteur d'activité d'invertébrés sous l'eau.
Et mais aussi, ce que vous cherchez à faire, c'est à inventer un autre langage que celui des scientifiques ou des spécialistes. L'idée, c'est de décrire un nouveau récit du monde, ni scientifique, ni religieux, rien que des sons, une autre science du monde, plus émotionnelle. C'est ça, c'est là où vous êtes aujourd'hui, Laurent Chauveau.
Oui, alors c'est l'étape finale de ce trajet autour de la coquille Saint-Jacques, c'est bien de se dire finalement de ces plongées polaires, est-ce que on peut pas raconter la nature en faisant une nouvelle fois un petit pas de côté et en confiant des émotions, de la sensibilité, de la beauté, de la poésie au public, parce que c'est exactement ce que nous voyons. En fait, les raisons pour lesquelles je m'intéresse à la coquille Saint-Jacques et à la biologie marine, c'est parce que ces environnements, ces animaux sont simplement beaux, esthétiques, poétiques, vous voyez. Et c'est peut-être là-dessus qu'on réussira à convaincre une population que on va dans le mur, il y a une urgence, il va falloir réagir.
Non, je t'attends. Les gants, je prends pas l'eau dessus, j'ai déjà froid. Allez.
Nous étions six. Nous étions six. Et le silence. L'immense silence d'un désert de glace. Nous étions six, et notre solitude.
C'est une première.
Ouais.
Je pense qu'il n'y a jamais eu de plongée ici. Avant vous.
Si, bien sûr, vous l'avez dit.
Ouais.
Vous êtes des pionniers.
On va faire
à la... Ouais. Non, réellement.
Sous l'eau, il fait noir, quoi. Mmh. Plongée sous glace, nuit totale. Moi, je leur tire mon chapeau. Hein.
Ouais, ça me plaît en plus. d'imaginer qu'ils doivent nous parler d'un truc que je peux pas imaginer.
Laurent Chauveau, vous faites de la radio?
Oui, enfin non, là Jean-Manuel Varnet de l'Université de Bretagne-Occidentale fait de la radio et ils ont dans les activités récurrentes de mon petit groupe, il y a ce mariage art et science. Et l'année passée, nous sommes allés au Groenland, au nord-est du Groenland, avec Jean-Manuel Varnet pour des enregistrements radiophoniques, pour une création radiophonique qu'il a menée à bien. C'est partiellement ce qu'on vient d'entendre. Et mais faut essayer d'imaginer qu'on est sur la banquise au nord-est du Groenland. On atterrit avec un petit twin otter et qui a des skis et on décharge du matériel de plongée. On passe des journées à perforer les 3 mètres de glace et le mètre de neige qu'il y a au-dessus de cette banquise et on finit par plonger. Évidemment, quelqu'un qui est plutôt écrivain ou plutôt auteur, il y a un effet de surprise à observer ces scientifiques qui s'acharnent à creuser la glace pour aller prélever un pétoncle.
Ouais, c'est sûr.
Ça peut paraître.
Ça fait partie de votre beauté, c'est votre folie, quoi.
Oui, c'est une folie, mais c'est quand même avec un raisonnement très caréné.
Ah oui, j'ai bien vu. Ouais, bon, très bien. Mais un peu fou quand même.
Oui, un peu fou. Ouais.
Fou mais, poète.
Mais fou et poète, mais surtout là, je fais ça avec quelqu'un qui s'appelle Erwan Amis. J'ai une confiance absolue dans ce plongeur. Il y a un vrai risque à aller sous la banquise et une espèce de fusion entre deux plongeurs qui s'est installée depuis les voyages en Antarctique fait que et on réussit à faire des choses assez étonnantes. Par des relations humaines et une confiance absolue l'un dans l'autre.
Très vite, c'est quoi le risque?
Le risque, c'est de ne pas retrouver ce trou. Ouais, et l'autre élément qui survient assez régulièrement, c'est le givrage du système. C'est-à-dire que l'eau qui est incluse dans votre bouteille finit par givrer le système qui vous délivre de l'air, ouais, le détendeur. Donc il faut avoir un collègue à côté de vous qui manipule pour vous une partie de... Ouais, sinon, ça se passe assez mal.
Mais pour vous, ça se passe toujours bien.
Voilà, on est à 350 plongées tous les deux et ça s'est bien passé sous la banquise.
Nature of the way, as their voices grew, they told.
journée particulière, Zoé Varié sur France Inter.
Laurent Chauveau, vous me parliez des manchots, qu'est-ce que vous vouliez me dire ?
Ouais, les manchots, c'est vraiment des animaux extraordinaires et en plongée sous l'eau, sont plus qu'extraordinaires puisqu'ils se déplacent plus vite que tous les poissons de l'Antarctique. La vitesse de nage est complètement folle. Ouais. Et j'ai un souvenir très très précis de d'accoutumance. C'est-à-dire quand vous faites une première plongée avec des manchots, ça vous empêche de dormir, une deuxième, et arriver à la trentième, l'esprit humain est fait comme ça, ça devient une routine. Alors ça va vous paraître curieux, mais la plongée avec des manchots devient routinière et vous faites plus attention aux voisins qui sont avec vous quand vous êtes en train de faire vos expériences sous l'eau. Oui. Et j'ai le souvenir de m'interroger sur le devoir de maths de ma fille. Oui, vous êtes en train de penser à l'école de vos enfants en train de plonger avec des manchots sous la glace en Antarctique. Oui, c'est mon témoignage de l'aptitude qu'a notre cerveau à occulter ce qu'il y a autour de vous dans la routine.
Revenons sur Terre, Laurent Chauveau. Donc 20 août 1995, c'est votre journée particulière. En 1995, Jacques Chirac était élu président de la République, vous vous en souvenez, contre Lionel Jospin, il avait gagné les élections. Alain Juppé est Premier ministre.
Ça fait écho à ce qu'on est en train de vivre.
Et ça fait écho à ce qu'on est en train de vivre. En novembre 1995, l'annonce du plan Juppé sur les retraites et la sécurité sociale provoque un énorme mouvement social, les plus importantes grèves depuis celle de mai 68. C'était comment à Brest ?
C'était très 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 agité et nettement moins à la Vervrac. Dans mon petit village là de la Vervrac, évidemment.
Ah, c'est votre village.
Vous voyez, quand vous êtes dans un petit port comme ça, vous voyez passer ces émeutes et ces mouvements sociaux comme ceux que
on est en train de vivre. Un peu comme les manchots.
Voilà, ça vous passe un petit peu à côté dans une espèce de douceur. C'est la douceur de Prévert, hein, du Finistère, qui apaise un petit peu le quotidien.
1995, c'est l'année des premiers succès de NTM, d'Ophélie Winter. Céline Dion chante « Pour que tu m'aimes encore ».
Ah bon ?
Ouais. Gérard De Palmas chante « Sur la route ».
Oui.
Et Scatman chante « Scatman ».
I'm a Scatman. I'm a Scatman.
Alors, ça vous dit quelque chose, Laurent Chauveau ?
Ça me dit, ça me ramène à la synthèse du Porzic, ça me rappelle un espèce de quotidien enchanté.
C'est ça ? Mais moi, je trouve ça, c'est de la musique pour manchots, non ?
Bah oui, pourquoi pas ?
J'imagine des manchots danser sur cette musique, d'un seul coup, j'ai pensé à ça.
Très bien.
Alors, en 95, le 30 octobre 95, les Québécois étaient invités à se prononcer par référendum pour la deuxième fois sur la souveraineté du Québec.
Saint-Sauveur-des-Monts, un petit village typique du Québec, avec ses maisons en bois, son église majestueuse, ses boutiques bien fournies et une population souriante que l'approche du référendum ne semble guère traumatiser. Ici, la population est plutôt aisée et âgée, et les plus actifs sont ceux qui ne veulent pas du changement.
Ma première carrière était comme officier de marine. J'ai connu le pays d'une mer à l'autre. C'est un tout. Là, on essaie de séparer une famille.
Et puis, il y a ceux qui, depuis longtemps, rêvent d'un pays indépendant, un rêve entretenu parfois depuis plus de 35 ans.
Nous, on veut que le souhait de général de Gaulle se réalise. Vive le Québec libre.
On veut avoir un pays. Alors, là, on a la chance de dire oui. Alors, on demande à tous les gens de dire oui.
Et ce qui frappe le plus dans cette campagne très importante, puisqu'il s'agit de décider de l'indépendance d'un pays, c'est le climat très détendu et convivial du débat politique.
Laurent Chauveau, c'est le nom qui l'a emporté en 1995.
De justesse.
De justesse, avec 50,58% des voix.
Oui.
Vous y étiez?
Pas du tout. J'ai cet écho-là et ce témoignage parce que j'adore le Québec.
Ouais.
J'ai des très 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 bons amis au Québec. Je vais citer là Philippe Archambault qui travaille à l'Université Laval ou Régent Tremblay qui travaille à l'Université de Rimouski. Et j'ai créé un laboratoire franco-québécois au sein de mon institut à Brest, et de mon laboratoire à Brest. Et on échange vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments scientifiques, d'étudiants et d'idées et de missions communes. J'adore ce pays, j'adore ces gens.
Alors, comme on a beaucoup parlé de poésie dans cette émission, on voulait clore cette heure et vous proposer d'écouter une dernière fois Francis Ponge.
Les problèmes de l'homme sont trop complexes, trop troubles, trop proches du désespoir métaphysique et du grand trou lui-même dans lequel je sens que je pourrais tomber, enfin si je m'en approchais trop. C'est à cause de cela que j'ai préféré reporter mon regard, comme je le disais tout à l'heure, au plus près et considérer des objets aussi infimes qu'un caillou, un brin d'herbe, une boîte d'allumettes, un mollusque ou une cigarette. C'est certainement parce que l'homme m'éblouit, parce qu'il me paraît beaucoup trop complexe, et ce n'est pas du tout que je manque de sensibilité à l'homme. C'est peut-être justement parce que j'en ai une trop à vif, n'est-ce pas, que je préfère parler d'autre chose.
Laurent Chauveau, c'était donc Francis Ponge qui parlait du parti pris des choses et pourquoi il avait pris ce parti des choses. Mmh. Est-ce que vous aussi, vous pensez que vous avez une sensibilité trop à vif à l'homme et que c'est pour ça que pendant des années, vous avez pu vous intéresser à un mollusque?
Ah, c'est une très bonne question. Une sensibilité à l'homme, oui. Ce que je reconnais, c'est une complexité complètement délirante de notre espèce et des compétences que je n'ai pas. Je veux dire par là que même très très vite, je me suis reconnu comme incompétent à qualifier les gens qui m'entouraient. J'ai du mal à évaluer, à juger. Il y a quelque chose qui m'a submergé assez vite quand j'ai commencé la biologie, c'est la beauté de ce que je regardais. Je trouve pas qu'il y ait forcément un paradoxe à avoir une famille, des amis et une vie sociale assez intense ou aimer la musique et trouver que l'appendice d'une crevette réunit toutes les qualités esthétiques d'une œuvre d'art.
Merci. Laurent Chauveau, d'avoir passé cette heure avec nous. Votre livre, délicieux, hein, il faut le dire, s'appelle « La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan » et elle est publiée aux éditions Équateur. Avant de se quitter, Laurent, juste, je voudrais lire trois phrases de vous. « La mer va monter et la glace disparaître. La chanson va s'arrêter. On s'en souviendra si demain est humain. Si tel n'est pas le cas, les coquilles nous survivront et nous aurons aidé la mer à monter. »
Oui.
C'est de vous.
Oui. La mer va monter, elle est en train de monter. C'est certain que les coquilles vont résister à notre bêtise. Et il faut embrasser complètement un problème qui est international, global. Non seulement l'Arctique et l'Antarctique fondent, mais le reste va très très mal. Bon, je le dis avec le sourire. Je pense vraiment que la génération qui arrive, si on lui propose un peu de poésie, si on lui présente ça avec de la musique, ou si on écrit des textes un peu sensibles, va embrasser ce problème.
Merci Laurent Chauveau.
Merci de m'avoir invité.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combe, Alina, Véronique de Saint-Pastou, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka, une équipe, une vraie équipe, et aujourd'hui, à la technique, c'était Selim Guéribi. Merci à lui, n'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. À la semaine prochaine.